c'est l'heure de Séquence Parc. Séquence Parc, c'est l'émission du Parc National des Cévennes. Un rendez-vous à retrouver chaque mois avec des invités pour parler d'un sujet d'actualité qui concerne le parc.
L'émission dure plus d'une vingtaine de minutes. Elle est diffusée le mardi à 10h et la semaine suivante, le jeudi à 8h30.
Séquence Parc sur le 107 FM.
Bonjour à tous. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser au Cosméjan avec la parution d'un beau livre qui lui est consacré. Il s'intitule « Cosméjan, un désert bien vivant ». Pour en parler, je suis en compagnie de deux membres de l'association Le Méjean, qui est à l'origine de ce livre. Evelyne Perrichon, vice-présidente de l'association. Bonjour Evelyne.
Bonjour.
Marie Descourtieux.
Bonjour.
Et Ingrid Augsbergen, chargée de mission édition au parc. Bonjour Ingrid.
Bonjour.
Donc votre association, Le Méjean, a décidé d'écrire un livre en 2020 pour fêter son 50e anniversaire. Donc c'est un bel ouvrage de 209 pages qui vient de paraître, qui évoque le patrimoine, la vie sur le Causse, le travail, le tourisme. Alors quel est l'objectif de ce livre et à qui s'adresse-t-il ?
Alors l'objectif, enfin, la naissance de l'idée du livre, elle est venue parce qu'il y a eu déjà beaucoup de publications par l'association sur le Méjean. Et on arrivait à nos 50 ans, l'association arrivait à 50 ans de vie, et on s'est dit peut-être qu'on pourrait remettre à jour certaines publications. Au départ, c'était peut-être refaire un fascicule sur comment on vit sur le Méjean 50 ans plus tard. Et puis, a cheminé doucement l'idée de faire un livre. Et il s'adresse à tous les gens qui aiment lire, déjà, parce que c'est un beau livre. Et même les gens du Méjean sont très intéressés parce qu'ils parlent d'eux et ils parlent aussi de tout ce qui se passe et de tout ce qui a évolué.
Donc, on l'a dit, hein, l'idée est venue avant, ça fait presque 7 ans, donc il y a eu, ça a été un gros challenge, un gros travail.
Oui, ça a été, il a fallu que ça mûrisse doucement. Il y a eu le Covid qui a bloqué le départ aussi et qui a bloqué la fête des 50 ans. Donc on a dit tant qu'à faire, puisque c'est 70 l'association, donc ça aurait été 2020. C'était pas possible de le fêter. Donc on a dit, on fêtera nos 50 ans en même temps que la sortie du livre. Il a fallu du temps parce qu'on a voulu que ce livre soit fait par les habitants. On n'a pas voulu confier le sujet qui était dire ce qui se passait actuellement sur le Méjean à quelqu'un qui aurait recueilli les choses et tout. On a dit non, c'est nous qui allons le faire. Et on est allé voir un peu partout. On a sollicité les différents habitants, différentes instances, dont le parc.
Et justement, les habitants, enfin, vous avez trouvé les plumes que vous cherchiez pour les thématiques dont vous vouliez parler. Comment ça a été accueilli ?
Je crois très bien, je dis je crois parce que moi j'arrive en fin de course, puisque je suis que depuis 3 ans en Lozère, mais oui, ce qui est beau je trouve dans ce livre, c'est la vibration de la parole de chacun, avec les grandes différences, avec les complémentarités, mais avec l'authenticité, chacun parlant de son domaine, de sa parcelle, de sa façon de voir les choses dans les différents chapitres que vous avez évoqués. Et ça, je trouve que c'est ce qui rend le livre singulier. Outre l'aspect beau livre, belles photos, les textes sont intéressants par ce qu'ils peuvent apprendre, notamment évidemment les textes faits par les membres du parc, mais les agriculteurs et les habitants du Causse apportent leur regard authentique de personnes vivant sur le Causse.
Donc je l'ai évoqué rapidement en introduction, mais est-ce que vous pourriez nous dire un petit peu ce qu'on trouve dans ce livre ?
Alors, je n'ai pas le sommaire sous les yeux, mais on trouve y a vivre sur le Méjean. Alors, il y a une partie un peu sur le patrimoine. Donc le patrimoine bâti, le patrimoine naturel aussi. Une partie sur vivre sur le Méjean avec toutes les activités qu'il peut y avoir. Et c'est là qu'on a vu que les choses se sont vraiment diversifiées. En 50 ans de vie, il y a eu une évolution impressionnante. Et il n'y a pas eu de désertification comme on aurait pu l'imaginer. C'était la dernière question de la publication de 1975. Vous disiez, que va devenir le COS ? Est-ce qu'il saura accueillir le tourisme ? Et là, on se rend compte que l'accueil du tourisme s'est vraiment passé. Donc, il y a tout le tourisme aussi. Travailler sur le COS, voilà. Tous les... Et puis, après, une petite question, le Méjean demain, avec la réponse de plusieurs jeunes qui sont venus s'installer sur le COS.
Mais justement, Marie, vous disiez, ça fait 3 ans que je suis en Lozère, vous êtes sur le COS, donc est-ce qui vous a, vous, incité à venir vous installer en Lozère, sur le COS et à rejoindre l'association?
Alors, je ne fais pas partie des jeunes, hein, parce que, vu mon grand âge, mais effectivement, c'est un choix de venir ici. Moi, je suis haute-savoyarde à la base et je pensais plutôt m'installer dans les Pyrénées. Et en passant, je me suis arrêtée quelques jours à Méruès et en fait, je ne suis pas repartie. Je me suis arrêtée depuis 3 ans. Et ce qui m'a plu, c'est d'abord la beauté immense de ce territoire et l'accueil chaleureusissime des gens. Enfin, je suis accueillie avec beaucoup de bienveillance, de générosité. Et je trouvais que pour... faire le projet dont j'avais envie, puisque moi je suis productrice et accompagnatrice d'artistes, c'était un beau lieu de calme à offrir aux artistes, donc d'où la rénovation de cette vieille ferme à Cossignac. Et très simplement, c'est par ma voisine, tout simplement, enfin encore une fois, c'est des liens humains, où j'ai entendu parler de l'association Le Méjean, et j'ai accepté d'en faire partie, oui bien sûr, hein. Ça me paraissait évident.
C'est combien de membres l'association ?
Alors,
grosso modo,
200, plus de 200 adhésions, mais pas que sur le COS, parce qu'il y a des adhésions de cœur, les gens qui ont vécu sur le COS et qui sont partis et qui gardent ce petit lien, ou des gens qui sont passés par le COS et qui ont eu un coup de cœur et qui restent en lien avec avec l'association, parce que l'association donne des informations sur le Méjean chaque mois. Il y a une lettre d'info pour tout le monde et les gens sont tenus au courant de ce qui se passe chez nous. Et il se passe beaucoup de choses.
Ingrid, comment le parc est intervenu ? Il a été sollicité dès le début, hein, je pense.
Oui, tout à fait. L'association Le Méjean s'est rapprochée du parc pour voir un petit peu comment le parc pourrait contribuer à la conception de ce livre. Et donc, on a eu une réunion, hein, qu'on évoquait il y a un instant, Evelyne, en présence de Anne Le Gilles, qui était la directrice à l'époque, où il y avait les membres de l'association et plusieurs personnes de notre équipe, et où l'association est déjà venue avec un sommaire qui était assez abouti. Il est pratiquement le même qu'aujourd'hui, oui, hein, quand j'y pense. Donc, ils savaient déjà très bien, en fait, comment ils voulaient traiter leur sujet. Ils voyaient déjà très bien ce livre synthèse qu'il est de la vie sur le COS. Et donc voilà, donc on a évoqué la partie texte, nous on s'est positionné naturellement plutôt sur des textes dans la partie patrimoine, sur des grosses actions du parc, celles qui avaient été un petit peu déterminantes, structurantes pour le COS, enfin qui avaient eu un impact en particulier ces dernières années et qui continuent d'en avoir. Donc au niveau des textes, on a 6 textes, dont un sur les vautours, bien sûr, avec les 4 vautours qui sont aujourd'hui présents.
Sur l'eau,
avec l'étude hydrogéologique,
voilà, toute l'étude qui a été faite
sur le COS Méjean avec le BRGM, et donc qui a remis en question la plupart des connaissances qu'on avait jusque-là, sur le ciel étoilé, la nuit, avec ce programme donc de reconnaissance internationale du ciel étoilé que le parc a porté et le programme associé sur l'éclairage public. J'en oublie. Sur le Villaret, donc qui sont nos locaux.
L'antenne du parc
sur le COS, avec le petit parcours pédagogique qui avait été créé à l'occasion de sa rénovation. Et puis ensuite, y a eu le texte sur le milieu naturel qu'on t'a confié à toi, Natacha, de présenter un petit peu le patrimoine naturel. Et puis, il y a eu un article. Alors ça, c'est tous les articles qui sont dans la partie patrimoine. Et il y a eu un article dans lequel Sandrine Descaves a collaboré, qui est dans la partie travailler sur le COS, et qui est un article de trois auteurs remarquables, absolument remarquables, sur la forêt, l'état de la forêt aujourd'hui, son évolution depuis une cinquantaine d'années. Il est extrêmement documenté. Et voilà, donc il y a Sylvie Kwan et Étienne Medge comme co-auteurs de cet article. Voilà. Donc ça, c'était la partie texte. Ensuite, on était sollicité sur l'iconographie. Donc il y a une partie de cartes qui ont été créées par Kizito, notamment pour l'article sur la forêt, d'ailleurs. Une douzaine de cartes en tout. Ensuite, il y a eu les photos. Donc un accès qu'on a donné à notre photothèque, et puis quand il y avait besoin de chercher, nous aussi en dehors un petit peu de notre fond courant, des photos qui pouvaient servir. Et puis après, c'était aussi me mettre moi à disposition de l'association, ça a été ça aussi l'aide que le parc pouvait apporter et qu'on a fait, quoi. C'est-à-dire de répondre aux sollicitations de l'association quand il y avait des questions spécifiques, quand il y avait quelque chose sur lesquels il y avait doute, comment on doit s'y prendre, comment faut faire, par exemple les questions de droit, de réutilisation de documents, essayer de leur débrouiller un petit peu les trucs qui sont habituels pour moi, voilà, que j'ai pu les aider à faire.
Ok. En fait. J'aimerais qu'on revienne sur le titre « Un désert bien vivant ». Alors, un désert, quand on pense aux causes, on pense à un désert. Enfin, on peut y penser pour plus.
On peut penser à un désert.
On peut penser à un désert. Alors,
quand on le traverse, on ne voit pas grand monde quand on le traverse.
C'est lié au paysage, aux habitations, expliquez-moi.
Les habitations sont assez regroupées en petits hameaux, pas en villages, en petits hameaux. Il y a trois villages, mais quand on traverse le Causse, là si on monte sur le Causse au-dessus de Florac et qu'on redescend sur Saint-Enémy, on ne voit pas grand-chose. Si, on voit énormément de choses, mais pas des gens, pas des voitures, très peu d'animaux aussi.
Et au niveau des paysages?
Voilà, c'est paysages désertiques, puisque...
Le Causse nu?
Oui, si les chevaux de Przewalski sont venus s'installer ici, c'est parce qu'il y avait une grande ressemblance avec la steppe mongole. Donc voilà, ça donne une idée de ce qu'est le paysage des Causses. Il y a une partie boisée, mais plus quand on redescend du côté du Tarn. Voilà. Mais désert, donc, mais bien vivant quand même.
Et justement, pourquoi il est bien vivant?
Parce qu'il y a, alors, il n'y a pas beaucoup de monde.
570 habitants en 2020.
Pour 375 km², ça. Et donc ça fait 1,4 ou 5 au kilomètre carré, donc c'est pas beaucoup par rapport à une densité citadine, mais il y a une vraie vie ensemble et il y a une vraie attention à l'autre. C'est pas tout le monde qui est... Il y a des tensions parfois entre les gens, mais il y a une attention à l'autre parce que le paysage est beau, mais il est rude aussi. Et quand la vie est rude, on a besoin de se soutenir aussi, d'être... Donc, c'est bien vivant pour ça. Quand on voit beaucoup de gens qui viennent l'été, disent « Mais comment vous faites pour vivre ici ?»
En hiver.
En hiver, déjà. Mais quand ils restent un petit peu et qu'ils voient tout ce qui se passe, ils n'en reviennent pas. Et parfois, ils sont en ville et ils n'ont pas la vie sociale qu'on peut avoir. Quand on voit tout ce qu'on peut faire, et puis les rencontres qu'il y a et qui sont des rencontres vraies. C'est surtout ça.
Vous écrivez « Habiter sur le Causse, c'est rarement vécu comme un hasard ou une fatalité, mais... » bien plutôt comme un choix. Donc vivre sur le Causse, c'est choisir quoi vous l'avez dit, hein, c'est quand même c'est des conditions aussi climatiques rudes,
des conditions
de vie particulières. Enfin, faut aimer quand même un petit peu la solitude pour vivre sur le Causse.
Les conditions climatiques, ça a bien évolué. Parce qu'il y a 15-20 ans, on était vraiment bloqué l'hiver. Maintenant, on n'est plus jamais bloqué complètement. On peut être bloqué une journée, deux jours, à peine. Mais donc, les conditions climatiques sont moins rudes. Mais c'est quand même un choix. Enfin, c'est pas des conditions faciles aussi, parce que ben, pour les faire des courses, c'est la première question qu'on nous pose quand quand les gens viennent. Et vous faites vos courses où ? Ben, on s'organise. On s'organise différemment. C'est sûr que on n'oublie pas le sel. Ou si on l'a oublié, on va le demander au voisin. On va pas au magasin à côté. Il y a pas de magasin à côté. Et pour les activités aussi, alors il y a ceux qui viennent s'installer, qui reprennent une exploitation. Il y a les gens qui sont exploitants depuis très longtemps, qui restent sur le COS parce qu'ils aiment le COS. Il y a ceux qui viennent s'installer et il y a d'autres, ils viennent avec leur activité aussi. Mais les gens, tous ceux qu'on interroge, ils sont venus vivre par choix. Sur le COS, qui sont les néo-ruraux. Ils sont là par choix et ils y restent quand ils ont vraiment fait le choix et qu'ils ont trouvé leur place. Mais c'est accueillant quand même. On trouve facilement sa place. Moi, je suis pas cosnarde d'origine. Ça fait 20 ans que je suis là. Mais j'ai bien trouvé ma place et le même sentiment d'accueil.
Je crois que ce qui participe aussi de l'image très particulière du Méjean, c'est sa situation d'île par rapport au Sauveterre, par exemple, où là, vraiment, on est vraiment une petite communauté. Enfin, vous êtes, en vivant là-bas, vraiment une petite communauté à part, quoi, y compris géographiquement.
Oui. Ce qu'on disait... Sur le COS, enfin, on est sur le COS, et si on veut partir, il faut descendre. Et si on veut venir sur le COS, il faut monter. Et on n'a pas de... Il n'y a pas une liaison comme le Larzac qui est traversé par l'autoroute. Le Sauveterre, il descend directement sur Mende. Voilà, c'est cette idée d'île, d'isolement.
Mais justement, oui, c'est Marie, peut-être une forme d'isolement qui nous relie. Parce qu'en fait, ça nous, enfin moi je le ressens comme ça, ça nous protège aussi. C'est-à-dire ça découpe cette île hein, avec ses gorges magnifiques. Et du coup, oui, la solidarité dont tu parles, elle est indispensable puisqu'on est tous coupés. On n'est pas coupés les uns des autres puisqu'on est au même endroit, mais on est coupés du reste. Et moi je trouve que c'est très protecteur, cette sensation. Elle n'est pas du tout inquiétante.
Vous êtes arrivée il y a 3 ans, donc Evelyne parlait juste le fait de faire ses courses. Enfin, voilà, oui. C'est bête, mais en même temps, c'est fondamental, c'est essentiel. Vous, quand vous arrivez, est-ce que vous posez cette question ?
Moi, ça fait 1 an que je vis sur le COS, 1 an et 3 mois. Ça ne fait même pas 3 ans, parce qu'avant, j'attendais à la Canourgue que la maison soit prête. Mais on apprend très, très vite. On se déplace rarement pour une raison. Si on doit aller faire des courses pour de nourriture, ben on le cumule avec un rendez-vous, avec un cinéma, avec une piscine, avec avec plein d'autres choses. Et ça vient très très vite. En plus, il y a quelque chose hein, sur le COS, il y a une camionnette de primeurs, de maraîchers, d'épiceries, enfin, qui passent en tout cas à Cossignac tous les vendredis, je pense dans d'autres hameaux, d'autres jours. C'est pas rien. Voilà, il y a ce lien avec cette nourriture qui vient à nous. Mais sinon, non, il faut effectivement descendre partout. Mais moi, j'aime ça. J'aime cette sensation que, de la même façon que c'est un choix de vivre sur le COS, eh bien, c'est un choix d'en descendre et d'aller faire les activités dont on a besoin. Mais après, on remonte et là, on est protégé.
Ça fait partie de l'identité costarde.
C'est un grand mot, grand débat. Identité cosnard. Génétique, non. Il n'y a pas d'identité génétique chez les cosnards. Mais c'est une reconnaissance plus qu'une identité. C'est, ça rejoint le choix de vivre dans ce pays qui paraît un peu hostile au départ et qui fait... De toute façon, un pays forge les gens. Quand on est dans un pays, dans une région où les choses sont très agressives, ou dans une ville où c'est tendu tout le temps, les gens sont agressifs. Là, on est au large et c'est l'identité, elle se retrouve là dans cette solidarité nécessaire, mais en même temps, je ne sais pas comment dire, l'identité Cosnard, parce que...
Ça fait partie, c'est une thématique
oui,
hein,
oui,
du
livre.
Oui,
on a écrit beaucoup.
On peut en écrire des pages et des pages, mais voilà.
Non, ça nous fait, non, ça nous fait parfois rire quand on nous dit l'identité Cosnard. Et en même temps, on la défend. L'identité Cosnard, en disant voilà, on est chez nous. C'est pas on est chez nous, non, c'est très mauvais cette formule. Parce que c'est
pas
très
du régionalisme,
non,
c'est
non,
pas.
Non, parce que c'est voilà. Très accueillant. C'est très accueillant. Enfin, oui. Voilà, enfin la preuve, on est toutes les deux, on n'est pas de Lozère. Et pourtant, maintenant, on a l'impression de faire partie. Et il n'y a pas une personne, ni de l'association, ni des gens qu'on rencontre, qui nous dirait vous n'êtes pas chez vous, vous n'êtes pas à votre place. Voilà, l'identité, c'est à travers toutes ces choses-là.
C'est une identité de lien. Aussi. Oui, l'identité, voilà. C'est du lien. Ouais. C'est la religion du cause, c'est le lien au sens premier de relier. Enfin.
Mais c'est fondamental. Au niveau des associations, donc vous êtes la plus ancienne, mais dans le livre, on apprend qu'il y a quand même une dizaine d'associations. Donc une dizaine d'associations pour un petit peu moins de 600 habitants, c'est pas mal. Donc toute l'année, le COS est rythmé par des fêtes, plus ou moins importantes, mais il y a toujours des événements.
Des fêtes, des concerts, des repas.
Du cinéma.
Du cinéma, oui.
On va faire la fête des moutonniers pour les adhérents de l'association, là, dans deux jours, demain.
Oui, oui, demain soir. Demain soir. Fête qui a 50 ans aussi.
Ah ouais.
C'est la fête, c'est vraiment la fête traditionnelle, le repas. Qui rassemblait, c'est le premier repas qui a été fait avec l'association pour rassembler les gens du COS. Parce qu'il y a 50 ans, on ne se déplaçait pas de la même façon, on ne se retrouvait pas de la même façon. Et ce repas était fait pour que tout le monde se rencontre dans la salle de Masdeval qui appartient à l'association.
Oui, ce qui n'est pas si fréquent qu'une association ait sa salle. Ouais. Construite
par l'association, oui. Entretenue par l'association. Et ce repas, il est vraiment un repère dans l'année pour les gens du COS.
On en parlait rapidement tout à l'heure, mais du coup, ce livre a permis de voir l'évolution du COS. Alors, depuis plus de 50 ans, quelles évolutions sont marquantes?
Alors, sur le plan agricole, on a fait appel à un ingénieur agronome qui avait fait une enquête en 2020 sur l'agriculture sur le COS, sur les GAEC, les exploitations.
Et elle est très détaillée, hein. C'est vraiment une mine d'infos.
Il nous a aidés et il nous l'a réécrite pour qu'on puisse la faire et on est allé rencontrer les agriculteurs, ou certains de l'association sont agriculteurs. Après, il en a fait la synthèse, parce qu'on ne l'a pas donné entièrement dans le livre, ça aurait été rébarbatif. Et même lui a été surpris de voir cette évolution et de voir l'implantation de jeunes. Il y a beaucoup, enfin beaucoup aussi, à l'échelle du COS, ça fait beaucoup de jeunes qui ont repris un GAEC de leur famille, soit créé leur exploitation.
Ça aussi, hein, c'est un aspect vraiment remarquable de ce livre. C'est-à-dire que l'association ait voulu faire sa propre enquête pour avoir des données qui soient spécifiques au COS et seulement au COS, et pas des données au niveau départemental ou à une échelle plus large, comme c'est le cas avec les données qu'on a, quoi. Mais d'avoir commandité cette étude et de l'avoir conduite. Donc ça aussi, ça a pris un peu de temps, forcément.
Oui, ça a pris
mais,
du temps.
Mais voilà, pour un résultat qui...
Mais avec des cartes qui sont très bien faites, on voit la différence entre, par exemple, 70 et 2021, donc au niveau des productions. Alors si dans les années 70, c'était le royaume des brebis et des bergers, on voit qu'en 2021, c'est quand même assez diversifié.
Hein. Oui, oui, ça a évolué. Il y a moins de brebis, il y a d'autres animaux qui sont arrivés, il y a des vaches, il y a des chevaux, des élevages de chevaux aussi, qui n'y avait pas il y a 50 ans du tout, du tout.
Donc quelques lamas.
Oui, il y a des lamas. Et plus loin, il y a des dromadaires, mais pas sur le COS.
Et les données enfin, s'arrêtent en 2020, c'est-à-dire 2020, 2021 pour certaines. C'est important de le dire parce qu'on est quand même en 2025 et qu'effectivement, il y a des gens ou des données qui peuvent ne pas apparaître. Mais nous restons très, très ambitieux et peut-être qu'on mettra à jour ce livre, j'en sais rien, dans 10 ans, dans 15 ans. Et à ce moment-là, on pourra continuer les données. Pour l'instant, on essaye de le distribuer dans toute la Lozère, hein, dans toutes les librairies et même à la Maison de la Lozère à Paris.
Et justement, comment vous êtes intervenu, vous, sur le livre ?
Oh, moi, personnellement, j'ai pas fait grand-chose. Le livre était fait et tout le monde l'a... Enfin, ce sont les... Encore une fois, bah, Evelyne l'a très bien expliqué, hein, le contenu. Je suis intervenue un peu sur la forme à la fin pour faire un livre. Ça a été mon métier, donc j'aime ça. Et voilà, lui donner cette forme peut-être esthétique et voilà, de mise en page et puis numéro du ISBN et diffusion, parce que faire un livre, il faut le diffuser, sinon, enfin moi je, voilà, ça me paraît évident, il faut le faire connaître. Donc d'où c'est cette émission qu'on fait avec vous. On a été voir d'autres radios également, on a eu un beau papier dans la Lozère Nouvelle, là dans Midi Libre il va sortir là prochainement un papier. Et puis on va faire cette jolie rencontre à la bibliothèque de Sévrac et à la Maison de la Lozère en janvier à Paris.
J'aurais juste une dernière question, donc c'est la dernière partie du livre, quel avenir pour le cause, enfin plus particulièrement le cause de demain. Alors comment vous voyez le cause de demain, en quelques mots?
Alors...
Ce sont les jeunes qui ont répondu ça,
oui,
surtout,
voilà,
parce que
c'est pour ça que c'est difficile.
comment les jeunes voient le cause de demain?
Il y a des jeunes qui sont... Enfin, tous les jeunes s'en vont pour leurs études, dès le lycée, dès 14 ans, ils sont obligés de partir du COS. Après, pour les études...
Comme ailleurs, hein, comme... Enfin, voilà.
Oui, et après, et pour leurs études aussi. Tous ne reviennent pas, mais ceux qui reviennent, reviennent avec un projet, reviennent s'installer sur le COS avec un projet. Et l'avenir, il est là avec tous ces gens qui s'installent, que ce soit des jeunes du COS ou des jeunes qui viennent d'ailleurs, qui s'installent avec un projet pour faire vivre le COS. Il y en a un qui parle de son entreprise, une entreprise de charpente. Après, Anna, quand elle est encore dans les études, donc elle ne sait pas ce qu'elle fait. Mais le COS, elle le dit bien, quand elle part trop longtemps, il faut qu'elle revienne. Et il y a pas mal de jeunes qui sont comme ça. L'avenir du COS, on le verra... Enfin, je ne sais pas comment le dire, parce que je ne sais pas faire de prédiction. On l'aime tel qu'il est, mais on aime aussi les évolutions qu'il peut y avoir. Hein. On se sert... le numérique, ça a été une super évolution. On utilise... On a un WhatsApp COSCOWAT pour les déplacements, où on met nos déplacements dessus. Et ça m'est arrivé de remonter des jeunes demandes ou d'en descendre quand ils voulaient y aller... On a sur Yelzas un WhatsApp village. On dit si quelqu'un voit Marcus, qu'il lui dise de rentrer à la maison. Ou bien voilà, j'ai trop de là. Ça, moi, j'aime vraiment ça. J'ai plein de betteraves ou j'ai plein de rhubarbe dans mon jardin. Venez ramasser. Alors, ça, quand on parlait de solidarité, d'échange. Mais on se sert du numérique pour ça. On n'est pas fermé.
Vous n'êtes pas en dehors du temps non plus.
On n'est pas en dehors du temps, voilà. Je cherchais l'expression, on n'est pas en dehors du temps. Mais voilà, on espère que le temps... que ça n'abîmera pas trop le COS, mais pour l'instant, non.
Où est-ce qu'on peut trouver le livre?
Dans toutes les bonnes librairies de Lozère, c'est-à-dire dans toutes les librairies hein, de Lozère, donc à Florac, à la Berlue et à la librairie du parc, enfin de l'office de tourisme.
La maison du tourisme.
La maison du tourisme, pardon. Voilà. Et puis à Biojour également. Et puis à Mende, à la librairie d'Hyperru, la librairie Les Petits Papiers, la librairie La Livrerie et Biocop. À Marvejol, à la librairie Papyrus, à la librairie Le Rouge et le Noir, à Saint-Chély-d'Apcher, à la Canourgue, à la Maison de la Presse et à l'Office de Tourisme, à Méruès, à la Maison de la Presse et à l'Office de Tourisme, à Millau, dans les deux librairies, Syllab et Côme, et dans les deux Biocop, au Tabac Maison de la Presse du Rosier, à la librairie de Séverac.
Enfin, il est un peu partout. Hein.
Voilà, voilà, on peut...
On peut facilement le trouver.
Oui, on peut facilement le trouver. Et puis sinon, on peut contacter l'association. Voilà, si c'est quelqu'un qui habite sur le Causse, il est dans plusieurs endroits sur le Causse, chez les uns ou les autres, c'est pour éviter d'avoir à descendre, si jamais.
Très bien, je vous remercie pour votre participation. Et je dis à très bientôt pour un prochain numéro de Séquence Parc.
C'était Séquence Parc. Séquence Parc, c'est l'émission du Parc National des Cévennes, un rendez-vous à retrouver chaque mois avec des invités pour parler d'un sujet d'actualité qui concerne le parc.
L'émission dure plus d'une vingtaine de minutes, elle est diffusée le mardi à 10h et la semaine suivante le jeudi à 8h30.
Séquence Parc sur le 107 FM.